Voilà, bonjour à toutes et à tous. Me voilà prêt. Bienvenue en tout cas à celles et ceux qui sont de passage ou qui nous visitent pour la première fois. Bienvenue en particulier à vous et bien sûr aux uns et aux autres. Toujours une chaleureuse bienvenue. Nous sommes effectivement, comme Damaris l'a dit, dans une série de prédications qui abordent les 10 commandements et nous sommes parvenus au 9e. Et je pense que les textes bibliques que nous avons lus, les chants que nous avons chantés, vous indiquent précisément ce dont parle cette 9e parole prononcée par Dieu au peuple d'Israël. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Oui, par amour pour ton prochain, tu ne mentiras pas pour lui causer du tort. Et nous verrons que cela peut prendre plusieurs formes. Comme pour les autres commandements, nous avons besoin que Dieu nous dise non. Non, tu ne seras pas un faux témoin. Non, il n'y aura pas de faux témoins parmi mon peuple. Et chacun est appelé à dire la vérité, et tout particulièrement lors d'un procès. Dans notre pays, dans le code de procédure pénale, à l'article 103, nous lisons que les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Et nous comprenons bien l'enjeu de cela. Le cadre est posé pour ne pas fausser la justice. En France, pour un faux témoignage, on encourt 5 ans de prison et une forte amende. Pour un faux témoignage. Si vous trouvez la sanction lourde, savez-vous à quel point Dieu a en horreur les faux témoins? Et de manière générale, dans la Bible et jusqu'en Apocalypse, les menteurs n'ont pas leur place auprès de Dieu. Notre Dieu aime la vérité, nous l'avons chanté, lui-même ne ment jamais. Notre Dieu aime la justice, lui-même ne se trompe jamais dans son jugement. Et c'est pourquoi il ordonne à son peuple de dire toute la vérité, rien que la vérité. Nous parlerons donc de ce 9e commandement en posant 3 questions. D'abord, qu'est-ce qui est interdit dans ce commandement? Ensuite, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole sur le mensonge? Et enfin, la 3e question à se poser, qu'est-ce que l'Église doit faire? Tout d'abord, qu'est-ce qui est interdit? Imaginons, nous nous mettons dans le contexte de l'époque, imaginons cette foule, ce peuple d'Israël, 1, peut-être 2 millions de personnes qui séjournent dans le désert, les uns à côté des autres. Imaginons le nombre de problèmes que cela peut générer. Imaginons les conflits possibles, les litiges à traiter, les accusations faciles. Imaginons un instant le quotidien de ce peuple d'Israël dans le désert. Par sa loi, Dieu pose un cadre et dit clairement ce qu'il interdit dans le cadre, dans le rapport à son prochain. Nous avons vu les semaines précédentes, ce qu'il interdit, c'est le meurtre. Ce qu'il interdit, c'est l'adultère. Ce qu'il interdit, c'est le vol. Et maintenant, le faux témoignage. Dieu commande au peuple qui lui appartient de respecter le droit, la justice, d'avoir des propos justes et vrais à l'égard de son prochain. Et oui, dans un premier temps, c'est dans le cadre d'un procès qu'il faut comprendre ce 9e commandement. Nous le lisons dans quelques chapitres plus loin, au chapitre 23, certaines de ces lois qui parlent de cela. Exode 23, versets 1 à 3 d'abord. Tu ne propageras pas de faux bruits. Tu ne t'associeras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras pas la majorité pour faire le mal et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras pas le faible dans son procès. Nous lisons également les versets 6 à 8. Tu ne porteras pas atteinte aux droits du pauvre dans son procès et tu t'éloigneras de tout mensonge. Et tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je ne déclarerai pas juste le coupable. Tu n'accepteras aucun cadeau, car les cadeaux aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et pervertissent les paroles des justes. Toutes les fois où il fallait rendre justice, le peuple devait prendre en compte ces lois que je viens de lire. Dieu interdit clairement les procès injustes, qui consistent à condamner l'innocent et à favoriser le coupable. Combien même ce coupable serait pauvre. En plus de cela, la loi de Dieu stipule la nécessité d'avoir deux ou trois témoins pour pouvoir établir un crime. Un seul témoignage ne suffit pas. Et c'est une loi que nous avons vue appliquée, notamment lors du procès injuste de Jésus. Plusieurs ont rendu contre lui un faux témoignage. Oui, la loi dit qu'il faut au moins deux ou trois témoins. Nous voyons donc le rôle important du témoin qui peut faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Et en interdisant le mensonge lors d'un procès, Dieu garantit en fait un cadre où justice sera rendue. À ce stade, nous pourrions nous dire que nous n'avons pas enfreint le neuvième commandement, surtout si nous n'avons jamais eu l'occasion de témoigner lors d'un procès. Cependant, le neuvième commandement ne concerne pas seulement les procédures judiciaires, mais plus largement tout propos qui nuit à son prochain. Toute parole qui puisse nuire à son prochain, qui porte atteinte à sa réputation. Et c'est pourquoi on lit par exemple en Lévitique 19, verset 16, « Tu ne propageras pas de calomnie parmi ton peuple et tu ne t'attaqueras pas à la vie de ton prochain. Je suis l'Éternel. » Tu ne propageras pas de calomnie. La calomnie, le fait d'accuser faussement son prochain, de livrer une fausse information en vue de le discréditer, est interdit par le neuvième commandement. La calomnie est un mensonge qui n'a pas sa place parmi le peuple de Dieu. Au lieu d'accuser faussement ou même d'exagérer les faits, l'Israélite doit plutôt reprendre son frère. Ça, c'est ce que Dieu prévoit dans sa loi aussi, au verset 17. « Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton frère. Ainsi, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. » Au lieu de propager des calomnies, non, tu reprendras ton frère. Nous est-il déjà arrivé de calomnier notre prochain? De prêter à quelqu'un de mauvaises intentions alors que ce n'était pas le cas? De juger hâtivement sans avoir tous les détails de l'affaire? Et combien de fois j'ai pu me tromper sur le compte de quelqu'un parce que je me suis arrêté aux apparences? Combien de fois j'ai pu dire du mal de quelqu'un alors que je le connaissais à peine? Je pense, sans trop m'avancer, que nous pouvons tous être plus ou moins vulnérables dans ce domaine. Qui est en maîtrise réelle de sa langue? Qui arrive à dompter les paroles qu'il prononce? Une parole peut être dite trop rapidement et déjà une rumeur est lancée. Dieu dit bien, tu ne propageras pas de faux bruits. Et Dieu dit aussi, par l'apôtre Pierre, 1 Pierre chapitre 2, verset 1, « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. » Et cette exhortation suit l'affirmation suivante. 1 Pierre chapitre 1, verset 22, « Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité. » Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Et c'est suite à cela que Pierre écrit « Débarrassez-vous de toute médisance. » Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur. Débarrassez-vous de toute médisance. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure, lors du dernier point. Mais nous pouvons dire d'emblée que ce qui caractérise l'Église de Jésus-Christ, c'est la vérité de sa parole. C'est l'amour fraternel sincère qui exclut donc toute mauvaise parole à l'encontre de son frère, de sa sœur en Christ. Dire du mal de quelqu'un, voilà parfois notre faiblesse. Dire du mal de quelqu'un, voilà parfois notre faiblesse. Et la frontière est vraiment fine entre, d'un côté, rapporter des faits, relever le défaut chez quelqu'un, un défaut chez quelqu'un, évaluer le mauvais comportement d'une personne, et de l'autre côté, dire du mal d'elle. La frontière est vraiment très fine. Oui, nous pouvons parfois relever que telle personne n'est peut-être pas à la hauteur, n'a pas les compétences requises pour un travail, pour un poste ou je ne sais quoi. Mais la frontière est très fine entre dire cela et dire du mal de cette personne. Je dois vous avouer que pas plus tard que dimanche dernier, je me suis rendu compte de cela. Nous étions ici même, un petit groupe, à discuter après le déjeuner et nous parlions de personnes dont les actes étaient clairement répréhensibles, clairement condamnables. Et je ne parlerai pas pour les autres du groupe, mais je ne parlerai que pour moi. Cette conversation m'est revenue le soir même. Et durant toute cette semaine où je préparais cette prédication, je repensais à cela. Je me suis demandé, en fait, si je n'avais pas trop dit à propos de cette personne. Combien même, je n'avais rapporté que des faits réels, vrais. Était-ce utile, finalement, que je rapporte ces faits, si finalement c'est juste pour dire du mal de cette personne? Et vous voyez que très rapidement, on peut glisser dedans. Oui, on est en train peut-être de condamner les actes de quelqu'un, et il est très clair que tout le monde reconnaît ces actes. Mais est-ce bien utile d'en parler? Nous avons besoin de discerner les paroles qu'il est juste et opportun de prononcer quand nous parlons des autres. N'est-il pas vrai que nous pouvons avoir tendance à critiquer, à exagérer, à rapporter des faits et à les commenter immédiatement après? N'est-il pas vrai que si nous n'y prenons pas garde, nous nourrissons des médisances, des ragots, des rumeurs? Et cela pas simplement dans le cadre de l'Église, mais aussi en dehors. Si nous sommes en train d'évaluer une personne en tant que manager ou en tant qu'enseignant ou en tant que tuteur d'un stagiaire, par exemple, comment allons-nous rendre témoignage de cette personne? À quel moment suis-je en train d'évaluer d'une manière juste? Et à quel moment suis-je en train de dénigrer? De même, au niveau des membres du conseil de l'Église, nous devons aussi y veiller collectivement. Car bien souvent, nous sommes amenés, lors de nos réunions, à parler des autres. Est-ce que nous le faisons toujours, comme Dieu le veut? Ainsi, le 9e commandement nous concerne de près, dès lors que nous commençons à parler des autres. Et en outre, si nous devons prêter attention à ce commandement, c'est aussi à cause de ce que Dieu dit dans sa parole à propos du mensonge. Et j'en viens à cette deuxième question. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole, dans la Bible, sur le mensonge? Ce qui importe pour nous, dans cette Église, comme dans d'autres, hein, mais dans cette Église, c'est de tenir compte de tout ce que Dieu dit dans sa parole. C'est de considérer ses pensées, sa manière de voir, et que tout cela, tout ce qui est écrit ici, que tout cela influence notre façon de penser et notre façon de voir. Son avis, l'avis de Dieu, est plus important que celui de nous tous. Et en parcourant les différents textes qui mentionnent le mensonge, j'ai pu me rendre compte de la manière dont Dieu en parle. Et je voudrais partager cela avec vous. D'abord, premièrement, première vérité que nous pouvons souligner, c'est que pour Dieu, le mensonge est une caractéristique du méchant, de l'homme ou de la femme injuste. Le mensonge est une caractéristique du méchant. Nous lisons dans le psaume 50, versets 16 à 21, « Dieu dit aux méchants, « Quoi donc? Tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais en sa compagnie et tu prends place avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu t'assieds, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et parce que je n'ai rien dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre, et tout mettre sous tes yeux. » Je pense que ici, les propos de Dieu sont très clairs. Dieu dénonce ici celui qui a l'apparence de la piété, mais dont le cœur n'est pas réellement attaché à lui. Tu énumères mes prescriptions, tu as mon alliance à la bouche, mais au fond, tu détestes l'instruction. Oui, chaque fois que nous parlons contre notre frère, contre notre sœur, nous ressemblons au portrait de ce méchant. À chaque fois que nous cédons au mensonge, nous faisons le jeu du diable. Oui, le jeu du diable, parce que Jésus lui-même a parlé à ceux qui ne voulaient pas l'écouter. Et voici ce qu'il leur a dit en Jean chapitre 8, verset 44. « Vous, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et voyez par contraste, verset 45, « Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Oui, très clairement, ici, si nous cédons à un quelconque mensonge, nous jouons le jeu du diable. Lui qui est le père du mensonge, lui qui, lorsqu'il dit le mensonge, ne parle que de son propre fond. Je pense que cela déjà nous amène à réfléchir à deux fois avant de prononcer une parole. Deuxième vérité que nous pouvons avancer, c'est que le faux témoignage fait partie des choses que Dieu a particulièrement en horreur. Et là aussi, je m'appuie sur un texte dans le livre des Proverbes qui en parle, au chapitre 6. Chapitre 6, versets 16 à 19. « Il y a six choses que l'Éternel déteste, et même sept dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. » Et dans Proverbes chapitre 12, verset 22, nous lisons également que les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Voyez comment les choses sont dites ici. Et c'est Dieu qui le dit lui-même dans sa parole. Il déteste, il a en horreur celles et ceux qui utiliseraient le mensonge, et en particulier contre leur prochain. Chaque fois que j'enfreins le neuvième commandement, je fais ce que Dieu déteste particulièrement. Quand je juge trop rapidement une personne sur les apparences et que j'en parle à quelqu'un d'autre, j'agis comme un insensé. Chaque fois que j'ai recours au mensonge, à l'exagération, à la comparaison qui me place en position de force vis-à-vis de l'autre, je pratique l'injustice. Et Dieu a horreur de cela. Je pense que cela nous amène, encore une fois, à réfléchir à ce que représente, aux yeux de Dieu, le mensonge. Troisième vérité, le mensonge vient du cœur de l'homme. Oui, Satan est un menteur. Oui, il peut inciter au mensonge, mais cela n'enlève en rien la responsabilité humaine et le fait que le mensonge vient, en réalité, du fond du cœur de l'homme. C'est ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 5, versets 19 à 20. « En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. » Dans la discussion de savoir qu'est-ce qui rend vraiment l'homme impur, Jésus met en avant, en fait, ce qui provient du cœur. Et vous lisez comme moi ce qui provient du cœur, les faux témoignages, les calomnies. Autrement dit, à chaque fois que nous avons recours à cela, à chaque fois que nous avons recours au mensonge, cela vient de notre cœur et de nulle part ailleurs. Si les propos malveillants sortent de ma bouche, ils trouvent forcément une origine, et cette origine se trouve dans mon cœur. Ce n'est pas seulement un manque de maîtrise de soi, c'est un problème profond qu'il faut traiter à la racine, au niveau du cœur, au niveau de notre être intérieur. Et c'est d'abord, en fait, si nous comprenons bien les propos de Jésus, c'est d'abord notre cœur qui a besoin d'être changé. C'est très important, mes amis, de voir avec lucidité ce qui se trouve en nous. Toutes les pensées, les paroles mauvaises proviennent de cette même source. Oui, je sais que je suis aussi mauvais que ça. Et c'est là le fond de ce qui est dans mon cœur. C'est pourquoi j'ai besoin que quelqu'un me sauve. C'est pourquoi j'ai besoin que quelqu'un extérieur à moi change ce cœur qui incline vers le mal. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus seul a payé par le sacrifice de sa vie pour tous mes mensonges qui ont nui aux autres, pour toutes mes calomnies, pour toutes mes médisances. Christ a payé pour ça. Il a subi une fois pour toutes la colère de Dieu et la condamnation qui devait me châtier à cause de cela. La bonne nouvelle, c'est qu'il a, lui aussi, la puissance de me changer. Oui, je sais que je ne suis pas quelqu'un de vraiment bien, que je suis quelqu'un de mauvais, que mon cœur est mauvais, mais j'ai l'espoir que seul Christ puisse me changer. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint en moi. Du menteur, du méchant que je suis, il fait de moi une personne qui dit la vérité et qui aime son prochain. Voilà ce que Christ peut faire dans ma vie. Si le mensonge et tous ses dérivés viennent du cœur, je comprends que j'ai absolument besoin d'un sauveur capable de traiter le mal à la racine. Ce n'est pas une question de moralité. Ce n'est pas une question « demain, je vais arrêter de mentir ». Non, j'ai besoin qu'il change mon cœur pour pouvoir y parvenir. Mais si je refuse son aide, voici ce qu'il affirme dans sa parole. Et nous en arrivons à la quatrième vérité. Les menteurs n'auront pas leur place auprès de Dieu. C'est ce que nous lisons précisément dans les deux derniers chapitres de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, verset 8. « Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre. » C'est-à-dire la seconde mort. Et dans le chapitre suivant, verset 15, « Mais dehors !» Autrement dit, en dehors de la cité de la Nouvelle Jérusalem. « Dehors les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Vous voyez que jusqu'à la dernière page de la Bible, il est question du menteur et du sort qui l'attend. S'il persévère dans son péché, s'il refuse de placer sa foi dans le seul qui puisse effacer son péché. Oui, à tous les menteurs qui ne se repentent pas, Dieu réserve une place en dehors de son royaume, loin de sa présence, loin des réjouissances et loin aussi de celles et ceux qui ont choisi plutôt la vérité. Si nous prenons au sérieux les avertissements du Seigneur, tournons-nous avec confiance vers celui qui peut nous sauver de cette condamnation éternelle. Regardons le mensonge comme Dieu le voit, comme Dieu l'a en horreur. Et comme le psalmiste, disons, psaume 119, verset 128, « Voilà pourquoi je trouve juste tous tes décrets et je déteste toute voie de mensonge. » Et le psalmiste dit aussi au verset 163, « Je déteste, j'ai en horreur le mensonge, mais j'aime ta loi. » Est-ce que nous pouvons dire exactement la même chose ? « Je déteste, j'ai en horreur le mensonge, mais j'aime ta loi. » Et le psalmiste le dit en s'adressant à Dieu. Si nous choisissons ce matin d'obéir au 9e commandement, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Et c'est là que nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce que l'Église doit faire ? Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que notre Église doit faire ? Si je dois juste parler de notre communauté. Comme je l'ai dit la semaine dernière, il ne s'agit pas seulement d'éviter ce qui est interdit, mais de faire aussi ce qui est juste aux yeux de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les faux témoignages, les calomnies ou les péchés de ce genre, mais de prononcer aussi des paroles justes et vraies. Comment pouvons-nous savoir que Dieu a bien commencé son œuvre dans notre cœur, qu'il est bien en train de nous transformer? À quoi voyons-nous cela? Eh bien, nous pouvons trouver une réponse dans le texte d'Éphésiens 4. Éphésiens 4, versets 20 à 24. L'apôtre Paul qui dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'il vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint, conformément à la vérité. » En écho à ce texte que nous venons de lire, nous sommes-nous débarrassés de ce qui appartient à notre passé, de ce qui appartient à la personne que nous étions avant de rencontrer Christ? Oui, peut-être qu'avant, sans scrupule, nous mentions, nous calomnions. Mais est-ce que nous nous sommes débarrassés de tout cela? Nous sommes-nous revêtus de l'homme nouveau qui est à l'image de Christ? Sommes-nous bien une nouvelle créature? Oui, la première question à se poser est si nous avons bien changé de façon de penser. Si notre manière de penser a bien été changée par la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que nous avons été renouvelés dans notre intelligence? Et tout de suite après cela, eh bien, l'apôtre Paul dit au verset 25, donc le verset qui suit, « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Oui, tout de suite après, l'apôtre Paul parle de ce sujet dont on parle ce matin. C'est pourquoi, si vous avez bien revêtu l'homme nouveau, si vous êtes devenu une nouvelle créature en Christ, c'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. Le mensonge ne fait pas partie de l'humanité nouvelle. Le mensonge n'a pas sa place dans les paroles que nous sommes amenés à prononcer, dans les discussions que nous avons entre nous, en particulier lorsque nous discutons entre frères et sœurs. L'apôtre souligne bien « car nous sommes membres les uns des autres ». Voilà une raison suffisante de ne pas nous mentir les uns aux autres ou de ne pas mentir à propos de quelqu'un les uns aux autres. Ce qui va caractériser qu'un changement s'est effectivement produit dans ma vie, c'est lorsque je vais me mettre à dire la vérité à mon prochain. Souvenez-vous, le mensonge est ce qui caractérise le méchant et le diable. La vérité nous place du côté du Seigneur, du Dieu qui ne ment jamais. Oui, si nous nous sommes débarrassés de ce qui était du diable, il nous faut encore aller maintenant dans le sens du Seigneur. Que toutes nos paroles, et notamment quand nous parlons des autres, de nos frères et sœurs, que toutes nos paroles soient justes et vraies. Non pas la vérité qui enfoncerait encore davantage l'autre, mais la vérité qui édifie. Et c'est ce que nous voyons quelques versets plus loin, au verset 29 de ce même chapitre, Éphésiens 4. Qu'aucune parole malsaine ne sortent de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui en fonction des besoins servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Veillons, frères et sœurs, sur ce qui sort de notre bouche. Et c'est si facile de dire des choses, parfois des mots qui dépassent notre pensée. Et je suis le premier à devoir faire attention, moi qui prends la parole. Par mes mots, je dois veiller à ne pas porter de faux témoignages contre mon prochain, que mes propos ne finissent pas par le dénigrer, que mon évaluation soit le plus juste, que mes remarques soient constructives et non destructives. Par mes mots, je dois chercher à édifier. Je dois chercher avant tout le bien de mon prochain. La traduction du semeur de ce même verset 29 explicite un peu plus peut-être. « Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. » Est-ce que c'est ce qui caractérise précisément nos paroles, les paroles qui sortent de notre bouche? Alors, il est plus probable que cette exhortation concerne les paroles que nous nous adressons les uns aux autres. Mais je pense aussi que sur ce principe-là, cela nous conduit à une véritable retenue quand nous nous mettons à parler des autres. Est-ce que mes paroles servent vraiment à l'édification dans l'Église? Et comme je l'ai lu quelque part, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Toutes les informations ne sont pas bonnes à être divulguées. Qui sait si par mon témoignage, je ne suis pas en train de nuire injustement à la réputation d'un frère, d'une sœur? J'ai entendu d'un frère dans l'Église que l'on juge parfois trop rapidement. J'ai entendu une sœur me rapporter qu'elle avait été victime de calomnies dans l'Église. Et j'entends parfois des critiques qui ne sont pas constructives. C'est triste quand nous nous conduisons de cette manière au sein d'une humanité rachetée par le sang de Christ, au sein d'une humanité réconciliée avec Dieu et où les membres sont aussi réconciliés les uns avec les autres. C'est triste quand nous nous conduisons de cette manière parce que ce n'est pas l'Église que notre Seigneur veut. Et cela me rappelle, lorsque j'y repense, la première fois que j'ai entendu le fait qu'il y ait dans une église, et je parle notamment de mon ancienne église, des personnes capables de raconter des ragots, de pouvoir faire véhiculer des rumeurs. La première fois que j'ai entendu ça, c'est lors d'une prédication, pour précisément dénoncer ce fait. Et je vous avoue qu'à cette époque, j'étais peut-être un peu naïf, mais voilà, j'ai été surpris par l'information. Quoi ? Dans l'église, on raconte des rumeurs aussi ? On parle mal les uns des autres ? Depuis, ce fait ne me surprend plus quand j'en entends parler, mais je veux encore nous encourager, en tant qu'église de Saint-Maur, église de la Pie, à ce qu'on ne puisse pas laisser passer cela au milieu de nous. Ce n'est pas l'Église que le Christ veut. Alors, qu'est-ce que notre Église doit faire dans ce cas-là? Bien sûr, nous débarrasser du mensonge, nous débarrasser de tout ce qui rabaisse l'autre, nous débarrasser de toute parole qui détruise au lieu d'édifier. Oui, ça, je pense que nous pouvons y réfléchir. Et que devons-nous faire encore? Eh bien, recommencer à aimer notre prochain, en nous engageant à ne rien dire qui porte atteinte à la réputation d'un frère ou d'une sœur en Christ. Si quelqu'un a fauté, le Seigneur nous enseigne à le reprendre. Si quelqu'un a fauté, nous pouvons prier pour sa repentance. Si quelqu'un a fauté, nous pouvons nous demander, ai-je vraiment besoin de le rapporter à tous? Ou est-ce que je dois simplement le signaler aux responsables d'église? Et toutes ces choses, dans toutes ces choses, que le Seigneur nous accorde sagesse et discernement pour agir en toute justice et en toute vérité. Dieu dit à son peuple, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. si la calomnie, la diffamation, les bruits qui courent, les ragots sont monnaie courante dans notre société, il est certain, d'après tout ce que nous avons entendu ce matin de Dieu, que l'Église, qui est son peuple, que l'Église doit se révéler entièrement différente. Il en va de notre témoignage chrétien. Parce que si demain, Didier et Brigitte, j'invente des noms, devaient découvrir notre Église, à quelles paroles seraient-ils exposés ? Que vont-ils trouver dans notre Église ? Je l'espère, des hommes et des femmes transformés par le Seigneur, qui ne laissent aucune parole mauvaise, aucun mensonge sortir de leur bouche, mais seulement des paroles justes et vraies, qui reflètent et qui font honneur au Dieu juste et vrai. Je voudrais vous laisser un temps pour méditer, réfléchir sur ce qui vient d'être évoqué.